C'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de O2 Radio, la radio des Hautes-Garonne, 91.3 de la bande FM et sur internet o2radio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui nous parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui je reçois le docteur Vincent Kant qui nous parle de dermatologie. Bonjour.
Bonjour.
Tout va bien ?
Tout va bien, on est prêt pour l'émission.
Alors ben justement, avant de la commencer réellement, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Alors je suis le docteur Vincent Kant, je suis dermatologue installé à Bordeaux depuis 2017. Je suis thésé depuis 2012 et je pratique la dermatologie interventionnelle dans mon cabinet en ville.
D'accord, merci. Et donc on va faire tout de suite notre première pause musicale avant justement de poser toutes ces questions et d'en savoir plus. Alors la première pause musicale, je suis désolée pour mon anglais, c'est Ain't No Sunshine de Bill Withers.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, le docteur Vincent Kant va nous parler de dermatologie. Donc avant la pause, on a fait votre connaissance, mais aussi nos auditeurs et auditrices. Mais alors justement, on en a parlé aussi en off. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de voir un ou une dermato aujourd'hui en fait ?
Alors, le problème de la dermatologie, il est assez mis sur le devant de la scène dans les médias, dans les discussions dans les familles, mais c'est également un problème de médecine plus globale en France. Il y a eu, comme tout le monde le sait, le numerus clausus qui a entraîné la diminution souhaité par les instances politiques du nombre de médecins qui était estimé trop nombreux et aussi en vue de faire des économies. Et cette diminution s'est faite progressivement. En parallèle, l'augmentation de la population française s'est faite et également, ce qui est plutôt bien, des progrès dans la médecine, l'augmentation de la prise en charge des patients, des prises en charge plus avancées, nécessitant plus de temps, plus de soins, donc moins de médecins, plus de patients et plus de temps pour traiter différentes pathologies ont entraîné des délais qui se sont qui se sont
allongés,
j'allais dire aggravés, mais allongés. Et puis, les médecins et les dermatologues sont également, comme la population française, une population vieillissante et donc qui part à la retraite, en général, autour de 67 ans. Et on arrive dans le boom qui part et on a encore... une petite dizaine d'années de diminution avant d'avoir une éclaircie qui devrait arriver selon les différentes instances dans les 10 ans qui devraient arriver.
Ah mais 10 ans, c'est long.
10 ans, c'est très long. Oui,
c'est ça, très
long. C'est un problème du quotidien. C'est un problème que nos patients nous mettent dans les consultations, nous opposent. Mais c'est vrai que malheureusement, alors je parle pour les dermatologues, on fait ce qu'on peut. On essaye de ménager la chèvre et le chou. Les journées font que 24 heures.
Ah oui, mais on ne peut pas être 24 heures dans notre cabinet à le faire. Sinon, à un moment donné, ça s'appelle l'usine.
Exactement.
Et du coup, on fait des choses qui ne sont pas bien.
Exactement. En fait. Et quand on n'a plus l'énergie pour donner du soin aux patients, on risque de donner un mauvais soin. Les délais s'allongent, les capacités de prendre des nouveaux patients, ce qui est le problème actuellement, se pose. On arrive à cet engorgement et cette difficulté, puisque Bordeaux, c'est quand même une grande ville. On a des dermatologues pour la cube, on va dire la Gironde, on serait plutôt bien doté. Mais on voit les départements aux alentours, Charente, Charente-Maritime, Lot-et-Garonne, Landes, qui... eux perdent pas mal de dermatologues. Par exemple, Angoulême, il reste 2 dermatologues. À Agen, bientôt, il n'y en aura plus qu'une. Donc, c'est vrai que ce sont des gens qui vont... cette population vont se déplacer vers la métropole bordelaise.
Vers nous, en fait.
Oui, exactement. Voilà. Et vont rajouter un pool de patients qui vont avoir une demande en plus de la population girondine ou de la métropole ou de Bordeaux.
Oui, qui croissent d'année en année en plus.
Exactement. Donc, l'attractivité de Bordeaux n'est plus à démontrer.
Ah oui.
Victime de son succès, malheureusement, le nombre de dermatologues n'a pas augmenté proportionnellement aux arrivées de population.
Et puis, on va le voir dans des questions après, c'est-à-dire, et on en a encore une fois discuté en off, c'est que les dermatologues, c'est déjà une spécificité, mais en plus de cette spécificité-là, vous en avez d'autres, et donc, du coup, trouver le bon dermato qui nous correspond à notre problématique, c'est encore plus difficile finalement.
C'est exactement ça. Et avant, on avait un médecin, il y a plusieurs dizaines d'années, voire centaines, il y avait un médecin qui faisait tout. Ensuite, on a eu l'omnipraticien, le médecin généraliste, et des spécialités, spécialités médicales, spécialités chirurgicales. Aujourd'hui, pour la dermatologie, ce qui me concerne, à l'intérieur de la dermatologie, on peut faire de la dermatologie médicale, on peut faire de la dermatologie chirurgicale, on peut faire de la dermatologie esthétique, on peut faire de la dermatologie laser, de l'allergologie, de la dermatopédiatrie, de la vénérologie, donc les maladies sexuellement transmissibles, de la psychodermatologie, et on voit qu'à l'intérieur de cette spécialité, il y a des sous-spécialités qui vont être pratiquées par différents dermatologues. On le connaît par exemple pour la cardiologie. Il y a des cardiologues qui vont faire le suivi de l'hypertension, mais des cardiologues qui vont s'occuper plus des infarctus pour aller déboucher les artères, donc la cardiologie interventionnelle. Et c'est vrai qu'en dermatologie, c'est beaucoup développé ces dernières années avec l'augmentation du nombre de cancers, de la dermatologie chirurgicale, qui est une spécialité à part entière à l'intérieur de la dermatologie pour opérer, que ce soit d'ailleurs des cancers ou des lésions bénignes, kystes, lipomes. C'est vraiment une activité qui prend de l'ampleur dans mon activité en tout cas.
Mais justement, moi je suis très inquiète parce que sur une lésion de peau, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en fait
quand... Alors, quand tu as une lésion de peau, faut se demander, souvent on va demander depuis quand vous avez ça. Est-ce que ça fait 3 jours? Est-ce que ça fait 6 mois? Est-ce que ça fait 10 ans? Une lésion qui est là depuis une dizaine d'années, qui n'a pas bougé, qui n'a pas d'évolutivité, on aura on va dire, moins de critères pour s'inquiéter que si une lésion est là depuis 6 mois et qu'elle a triplé de volume. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, le caractère d'évolutivité est vraiment très important. Ensuite, il y a la couleur, il y a la taille, il y a la localisation. Et puis ensuite, quand vous voyez votre médecin généraliste ou spécialiste, on va vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie. Et là, c'est vrai que pour la peau, on va demander quel est votre travail, si vous travaillez dedans, dehors, vos loisirs. Est-ce que vous êtes plutôt un joueur d'échecs à l'intérieur ou est-ce que vous êtes plutôt...
Footballeur qui est dehors.
Voilà, qui est tout le temps dehors, qui passe tous ses week-ends dehors ou la personne qui fait beaucoup d'alpinisme, beaucoup de randonnées. Voilà. Le soleil va être une question prépondérante pour nous parce que ce qu'on craint derrière, quand même, c'est ça reste le cancer de la peau. Et les critères qu'on connaît... qui sont rabâchés, et c'est jamais inutile de rabâcher, c'est ABCDE pour les lésions pigmentaires. Donc une lésion pigmentée qui est asymétrique. Ça va être un critère inquiétant. B, avec des bords irréguliers. Donc si c'est un petit peu déchiqueté, la symétrie, c'est si on n'arrive pas à la plier en deux, par exemple. Les bords irréguliers, ça va être aussi un critère qui va être péjoratif. Les contours, le diamètre de plus de 6 mm, et E, c'est ce dont on vient de parler, c'est l'évolutivité. Et l'évolutivité, si c'est la première fois que vous en parlez à votre dermatologue ou à votre médecin traitant, il n'y a que vous qui pouvez nous la donner. Et c'est vrai que moi, souvent, je pose des questions. On me dit « je ne sais pas ». Mais voilà, si ça fait 10 ans, bon, on s'inquiète un peu moins que « oui, c'est vrai qu'en 3 mois, ça a doublé de volume ».
Oui, c'est ça, mais le problème, c'est qu'on a du mal à s'observer soi-même, en fait. Et c'est le problème de ça, c'est-à-dire évolutivité, ok.
Mais le critère, voilà. Le critère d'évolutivité, on va le rechercher, mais on ne le retrouve pas forcément.
Mais oui, voilà.
Donc, il nous reste ABCD. Alors, ça reste des règles pour, on va dire, la population générale qui sont un bon débrouillage, mais qui ne sont absolument pas spécifiques. Et ensuite, on va avoir des critères cliniques, visuels, à la palpation, savoir si c'est dur, si c'est pas dur, si c'est associé à d'autres choses. Et puis, est-ce que ça fait une croûte? Est-ce que ça fait pas une croûte? Est-ce que ça fait une plaie qui ne cicatrise pas? Et souvent, si on a une notion d'une plaie spontanée qui évolue depuis plus d'un mois, sans cause particulière, sans être gratté et qui n'a pas tendance à cicatriser spontanément, c'est qu'il se passe quelque chose en dessous. C'est pas systématiquement mauvais, mais ça doit quand même soulever le problème et faire consulter le médecin traitant en premier, le médecin généraliste qui est vraiment le premier relais. Et ensuite qui vous orientera vers un dermatologue qui verra ce qu'il en est et qui pourra appuyer justement cette demande. Et alors c'est pas un passe-droit, mais c'est un filtre. Et c'est vrai que en France, malheureusement, on est à peu près 3000 dermatologues.
Ça fait peu quand même.
Et oui, on est 70 millions de Français. Si on s'amuse à diviser le nombre de dermatologues par le nombre de Français et le nombre de jours, il faudrait qu'on voit à peu près 65 patients par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est pas possible.
Non, c'est
donc
pas possible.
C'est pour ça qu'il faut... Le médecin, il est là pour dire « ça m'inquiète pas ». Ça m'inquiète, c'est vrai, et les critères sont assez connus. Et ensuite, bien évidemment, il va vous orienter vers un dermatologue qui connaît pour faire ce type de prise en charge et éventuellement pouvoir aussi également opérer quand il y a ce genre de choses. Et puis, si le dermatologue qui n'opère pas va avoir son réseau et ses correspondants. Alors, ça peut paraître long pour le patient de voir le médecin traitant, le dermatologue, le chirurgien, et de passer au bloc opératoire s'il y a besoin. Mais d'essayer d'aller voir directement le dermatologue, malheureusement, souvent, les patients, ce qu'ils me disent, c'est qu'on trouve la porte fermée. Et c'est vrai que le médecin généraliste a les capacités de pouvoir l'ouvrir, comme nous, par exemple, en tant que dermatologue, quand on veut adresser des patients à l'hôpital. on y arrive plus facilement.
Mais oui, c'est ça.
Puisque on adresse des cas qui sont vraiment, enfin, qui nécessitent l'intervention de l'hôpital et que en ville, on n'a plus les capacités de pouvoir gérer ces pathologies.
Ben merci pour ces informations. Alors justement, alors moi j'en ai plein hein, des grains de beauté. Est-ce qu'on doit se les faire dépister tous les ans ?
Alors tous les ans, j'ai un petit peu répondu avant. Tout le monde, 70 millions de Français, 365 jours, 3000 dermatologues, on ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on va... et puis les médias sont une superbe source pour partager nos connaissances et on va éduquer les patients à l'auto-diagnostic, l'auto-dépistage, avec ces critères ABCDE. Donc A pour asymétrie, B pour les bords irréguliers, C pour la couleur. Plusieurs couleurs, ça va vraiment être important. Si on a plusieurs couleurs, on va avoir des lésions qui vont avoir du noir, du marron, des fois du blanc, du rouge, du gris. Et là, c'est un critère.
Bon, il nous faut une loupe alors en tant que patient pour voir justement ces différences de couleurs.
Alors pas
parce
forcément.
Que j'en ai moi qui sont petits, hein, mais qu'on voit quand même. Et j'ai envie de dire, pour moi, ils sont tous pareils, quoi.
Alors, s'ils sont tous pareils. On revient sur une théorie très simple, celle du vilain petit canard. S'ils sont tous pareils et qu'il y en a un qui ne ressemble pas aux autres, va être
lui,
aussi...
Lui, il faut le chercher.
Ouais. Voilà, lui, il va falloir aller lui chercher. Mais c'est vrai que la probabilité d'avoir, on parle pour les lésions pigmentées, deux mélanomes en même temps chez un même patient, elle reste quand même...
Rare.
Rare, exactement.
Ouf.
Et alors après, on n'est pas infaillible non plus. C'est vrai que nous aussi, on voit des patients qui ont plein de grains de beauté et qui ont ce qu'on appelle des syndromes des névus atypiques, c'est-à-dire qu'ils sont tous un peu différents et tous un peu inquiétants. Et ça, c'est la bête noire du dermatologue à se dire, oh là là, lequel. On a des critères, mais c'est vrai que c'est des gens qu'on va surveiller peut-être un petit peu plus. Et puis, les gens qui ont peu de grains de beauté, peu de facteurs de risque, peu d'exposition, peu d'antécédents familiaux... L'auto-dépistage, et puis le médecin généraliste aussi va être en première ligne. Et puis en cas de besoin, le dermatologue peut voir le patient et faire un examen de base et dire oui, il faut faire une surveillance ou non. Il y a 4 grains de beauté et l'utilité de revoir tous les ans n'est pas utile. Je parlais de la cardiologie tout à l'heure. Un patient qui a 30 ans, qui est en bonne santé, ne va pas aller voir son cardiologue. Alors que, pourquoi pas, on pourrait faire une échographie cardiaque, un électrocardiogramme, oui. Mais si on n'a pas de facteur de risque, alors si c'est un sportif de haut niveau, ça va être différent de si c'est quelqu'un qui fait, qui court 4-5 km toutes les semaines.
Oui, quand il neige, quoi.
Voilà, exactement.
Ah mais oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que les grains de beauté, ça peut faire peur aussi. Les gens sont... Enfin, les futurs patients, en tous les cas, ils vont se dire « Oh là là, il y a un grain de beauté, celui-là, je ne l'avais pas avant. » Hop, ils vont tout de suite s'inquiéter.
Exactement.
Alors que ce n'est pas forcément une inquiétude à avoir. Il faut surveiller.
Il faut surveiller. Et en cas d'inquiétude, le médecin généraliste va être... le médecin de famille, le médecin traitant va être le premier relais. Et puis ensuite, en fonction du terrain du patient, de l'âge aussi... on va avoir une conduite à tenir qui va être différente et qui va être personnalisée à chaque patient. Des grains de beauté qui arrivent jusqu'à 40-45 ans, c'est banal. C'est normal.
Ouais.
Des grains de beauté se développent au fur et à mesure de la vie, chez les enfants, chez les ados, et puis au fur et à mesure, vers 40-45 ans, c'est terminé. Et puis ensuite, les grains de beauté ont plutôt tendance à disparaître pour ceux qui sont plats, et puis ceux qui sont un peu en relief, à prendre un peu de relief. Ceux qu'on voit au niveau du visage vont gonfler un petit peu et devenir de plus en plus de couleur chair, perdre un peu leur pigmentation. Et ensuite, si quelque chose arrive, évolue, il faut le garder à l'esprit qu'une évolution, ça doit être un signal d'alarme.
D'accord, ok. Voilà. Alors justement, quelles sont les interventions chirurgicales qui sont faites par un dermato ?
Alors, ça peut aller du tout ou rien.
Ah.
Il y a des dermatologues qui ne font absolument pas de chirurgie. Et il y a des dermatologues qui font de la chirurgie avec ce qu'on appelle des plasties, des lambeaux, des reconstructions complexes quand il y a des carcinomes, des cancers de la peau au niveau du visage, du nez, des lèvres, des paupières, du front, donc avec des greffes de peau qui peuvent se faire la plupart du temps sous anesthésie locale et qui peuvent, dans certains cas, nécessiter une anesthésie générale. Mais quand même, 95% des interventions réalisées par les dermatologues se font sous anesthésie locale, et ce qui est beaucoup plus simple pour le patient. Mais on parlait des cancers de peau, mais ça peut être également un kyste, ça peut être un lipome.
Des petites excroissances de peau.
L'ongle incarné aussi, c'est une intervention que... Pareil, je ne veux pas dire que tous les dermatos font ces interventions, mais c'est du domaine du dermatologue. Le chirurgien orthopédique peut également le faire. La dermatologie n'est pas une spécialité chirurgicale, mais elle nécessite de faire des interventions.
Et oui, et du coup, est-ce que vous êtes nombreux, voilà, c'est la question que je me posais tout à l'heure, du coup, en dermatologie chirurgicale, est-ce que c'est quoi la proportion sur les 3000 que vous êtes en France, etc. Rappelons-le que vous êtes peu déjà, donc...
J'ai pas des chiffres en tête, mais je dirais bien qu'il doit y avoir quand même 95% des dermatologues qui font des petites interventions pour retirer un grain de beauté, voire même 98%. Après, ça, c'est, chacun fait...
Oui, après, c'est plus la grosse chirurgie.
Exactement.
Ou là, c'est plus...
Là, on va restreindre le nombre de dermatologues. Moi, je suis venu à Bordeaux pour faire la dermatologie parce que c'est une école de chirurgie dermatologique. Et donc, c'est vrai que le nombre de dermatologues qui font de la chirurgie à Bordeaux est peut-être un peu biaisé puisqu'on a une formation locale qui est de qualité.
Bon, super, merci. Déjà, nous voulons rassurer, au moins. On va faire notre deuxième pause musicale. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. On va dire Chanchan de Compay Segundo.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. Tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín.
Ataque, compadre, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, Dr Vincent Kant nous parle de dermatologie. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle est disponible en podcast sur le site de la radio, auderadio.fr, dès la fin de l'émission. Donc avant la pause, vous nous avez expliqué ce pourquoi c'était si difficile de trouver un dermato aujourd'hui. Vous nous avez expliqué que se faire dépister les grains de beauté tous les ans, de toute façon c'est pas possible, hein, parce qu'on a bien compris que vous étiez peu nombreux pour toute la masse de population que nous sommes. Voilà. Mais il y a aussi un autre phénomène dont on parle beaucoup et souvent on en souffre à l'adolescence, mais pas que, l'acné. Ça touche beaucoup de personnes aujourd'hui. Et est-ce que c'est de plus en plus fréquent, finalement, cette acné ?
Oui, c'est de plus en plus fréquent. L'acné, ça touche bien 80% des adolescents.
Quand même.
Les patients sont de plus en plus demandeurs d'amélioration de traitement d'acné. Pourquoi ? Parce que l'image corporelle, esthétique, a pris beaucoup de place aujourd'hui
dans notre société.
Société. Un des facteurs aggravants de l'acné, c'est la consommation d'aliments. Alors, il n'y a pas d'aliments précis à éviter, les régimes restrictifs n'apportent pas d'amélioration, mais la consommation hypercalorique. Je veux dire, tout le monde en a fait un petit peu les frais un jour ou l'autre. Un repas un peu important, peut-être.
Oui, puis dans notre belle région.
Voilà. Et puis le lendemain, il y a quelque chose qui sort. Et bien, en fait, chez les ados, avec les consommations sucrées, souvent, que ce soit des sodas, de l'alimentation, les fast-foods, c'est un facteur favorisant important. Le tabac également est un facteur favorisant, même s'il a quand même tendance à reculer un petit peu en France et dans le monde. Et l'acné, pour moi, c'est vraiment un sujet qui va être important à prendre en charge, parce que l'acné, c'est une pathologie inflammatoire de l'adolescent, mais qui peut continuer à l'âge adulte, ou même des fois débuter à l'âge adulte, notamment chez les femmes, avec des dérèglements hormonaux. Mais plus que les boutons qu'on voit, et qui, le plus souvent quand même, passent avec le temps. Alors, ne me demandez pas quand est-ce que ça s'arrête, si c'est à 15 ans, à 18, à 20 ans. Il n'y a pas de date, chaque personne c'est va avoir différente. Une évolution avec son acné qui va être différente. Mais c'est surtout les conséquences de l'acné, les conséquences psychologiques de développement, de confiance en soi, et puis ensuite les conséquences vraiment objectives à type de cicatrice. Puisque l'acné va donner des cicatrices, peut donner des cicatrices.
Oui, surtout quand on gratte.
Exactement. Alors, même quand on ne gratte pas, Il peut y avoir des cicatrices, mais quand on gratte, on va aggraver le phénomène. Et plus on va gratter, plus on va faire une plaie. Et plus on va faire une plaie, plus elle va vouloir cicatriser. Et plus ça cicatrice, qu'est-ce qui se passe quand ça cicatrice? Ça gratte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On regratte. Mmh. Et quand on regratte, on recreuse. Et ainsi de suite, et jusqu'à laisser des traces malheureusement définitives. Et ensuite, les traitements qu'on va pouvoir proposer pour améliorer ces cicatrices ne vont pas les effacer. On n'efface pas une cicatrice, on l'estompe. Donc, le plus intéressant va être de prendre le problème
à la source,
en amont, et d'essayer d'aller traiter localement. Alors, on débute, je vais revenir sur mes confrères médecins généralistes, sur des traitements locaux qui n'ont pas énormément évolué, mais qui restent quand même assez efficaces pour une grande partie de la population adolescente qui présente cette acné, des traitements en crème. Alors, ça nécessite une observance, c'est-à-dire de faire les traitements régulièrement, tous les matins, tous les soirs. Il faut que le patient soit motivé. Et puis, si ces traitements locaux en crème ne fonctionnent pas, on peut passer à des traitements, ce qu'on appelle PEROS, donc en comprimé. Que ça soit avec des antibiotiques, la doxycycline, avec des cures, que ça soit du zinc, que ça soit même encore le roaccutane, qui est un traitement qui a été assez...
À décrier, hein, pour le coup.
Je suis assez d'accord, mais ça reste quand même un traitement qui
est
très efficace, qui est très suivi, qui nécessite des consultations mensuelles pour les femmes, puisqu'il y a des risques de malformations en cas de grossesse. Il va nécessiter une contraception associée, des prises de sang mensuelles. Également, un traitement qui dure environ 9 mois, avec son cortège d'effets secondaires. Mais malheureusement, ça reste tout de même un traitement qui va être très efficace sur l'acné, que ce soit au niveau du visage, mais également au niveau du corps, des épaules, du décolleté. Et puis, en cas de contre-indication ou d'échec du roaccutane, aujourd'hui, a été développé par un laboratoire américain, un laser qui va être spécifique de l'acné, qui pour l'instant est recommandé pour le visage, pas sur le corps, mais qui va avoir l'intérêt de se faire rapidement en 3 séances. On fait 3 séances sur 2 mois, et qui est, alors, c'est jamais dénué d'effets secondaires, mais avec des effets secondaires assez minimes. 3 séances de 3 quarts d'heure en 2 mois pour avoir des résultats et qui récupère des acnés qui malheureusement sont en échec même du roaccutane après 2 cures ou 3 cures. Donc on a une alternative qui est arrivée depuis un an en France qui s'appelle laser à vie clear et qui est très intéressant dans certaines situations pour s'enlever cette épine du pied et justement éviter ces cicatrices et même parfois des acnés qui traînent chez les femmes de 30, 40, 50
ouais,
voire plus et alors qui sont pas forcément énormes mais au quotidien
oui, mais
c'est vraiment l'épine
gênant, en fait.
Voilà, c'est l'épine dans le pied
parce que généralement on l'a sur le visage, donc c'est ce qu'ils voient le plus.
Exactement.
C'est l'image qu'on reflète, c'est voilà, et oui, c'est, et puis le regard des autres, parce que effectivement on est dans une société où on en souffre tous de ce regard posé sur nous. Pour des personnes qui sont pleines de boutons ou qui ont des lésions de peau, ou alors on le voit aussi dans ceux qui sont comme moi, en surpoids. Et c'est vrai que le regard des autres, il est vraiment impactant. Donc si on peut effectivement réduire en tous les cas ou effacer totalement...
Aider, oui, exactement. Le
ça,
but, c'est vraiment d'essayer d'accompagner
important.
Tout en sachant que en médecine... On fait pas de miracle. On propose des traitements avec des effets positifs, mais également des effets secondaires, potentiels. Et les effets positifs sont rarement, dans 100% des cas, une réussite. Il y a une marge de manœuvre et puis chaque patient
réagit différemment.
De manière différente, exactement.
Ça veut dire que, par exemple, une personne qui vient pour du laser pour l'acné, par exemple, pour elle, ça va marcher super bien. Elle va dire à sa copine ou son copain, « Ouais, il faut que tu y ailles parce que franchement, ça marche super, etc. » Et au final, ça peut ne pas marcher pour cette personne-là.
Exactement. Et c'est en ça que, en médecine, on se base avec des études sur des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de patients pour justement avoir une statistique pour dire ça marche dans 80% des cas, plutôt que de se baser sur ce qu'on appelle un case report. Il y a eu un cas, ça a marché. On ne peut pas conclure là-dessus.
Que ça marche sur
moi, je suis allé trois fois en Bretagne. Les trois fois, il faisait très, très beau. J'adore la Bretagne, mais on ne peut pas conclure...
qu'il fasse beau tout le temps.
Qu'il fasse beau tout le temps, exactement.
Mais c'est pareil en Gironde. Hein.
Et exactement. Mais là, on est quand même gâté par la météo.
Il ne pleut pas, mais le ciel s'est quand même voilé par rapport à ce matin. Il y avait un beau ciel bleu avec un peu de brouillard. On s'est dit, oh, chouette, mais là, c'est un peu voilé quand même. Donc du coup, voilà, quand on a cette acné, donc on a d'abord été voir notre médecin traitant, qui nous a donc fait une petite ordonnance pour des soins, des crèmes en tous les cas, qui fonctionnent ou pas. Après, on arrive chez vous, chez un dermato en tous les cas. Et qu'est-ce qu'on fait plus précisément en fait ? Parce qu'on arrive, on dit, on vient parce qu'on a de l'acné, on a fait ça, ça n'a pas fonctionné.
Voilà, alors c'est vrai... D'emblée, on va recommencer, comme chaque consultation, qu'est-ce que vous avez fait ? Quel a été le traitement ? Donc, c'est vrai qu'on pose des questions. Souvent, les gens disent, je ne sais pas, j'ai mis une crème, le tube bleu.
Alors, j'ai exactement ça comme problématique. C'est ça. En fait, c'est qu'on nous demande les noms. Et puis, en plus, quand on va à la pharmacie, des fois, on a les génériques.
Ouais.
Et là, du coup, quand on nous pose la question, le tube, il était bleu dans une boîte orange. Et le nom
Ça va être compliqué. Alors, le but, ce n'est pas d'embêter les patients, c'est vraiment de savoir ce qui a été fait pour, si ça n'a pas fonctionné, éviter de repartir dessus avec des fois un traitement qui va être le même mais qui a un autre nom ou une molécule identique qui aura la même efficacité. Et donc, si on peut éviter de repartir pour 3 mois ou 6 mois de traitement avec une molécule qui va être identique, pas forcément le même nom, mais qui va avoir les mêmes vertus, on va déjà gagner du temps. Et puis, on va aussi avancer pour connaître le type d'acné que le patient a.
Ah, parce qu'il y a plusieurs types.
Ah oui. On a l'acné inflammatoire, donc ça, c'est les boutons rouges.
Ouais.
Et on a l'acné rétentionnel, ça, c'est plutôt les points noirs.
Voilà. D'accord.
Et à l'intérieur de l'acné inflammatoire, on peut avoir des acnés qui sont légèrement inflammatoires, modérément, et des fois, ce qu'on appelle nodulo-kystiques, avec des grosses boules très douloureuses au niveau du visage ou du corps. Et donc, en fait, ces différents types d'acné vont entraîner et vont nous faire proposer différents traitements.
D'accord.
Et puis, la chose importante, c'est l'observance. C'est-à-dire... Les traitements qui ont été prescrits en amont, comment
ils ont agi ?
Comment ils ont été utilisés surtout ?
Ah, utilisés.
Parce qu'on sait très bien que on fait des ordonnances, on recommande d'appliquer 2 fois par jour des crèmes, puis ça, de laver le visage. Mais est-ce que c'est réellement bien fait ? Et alors, c'est là où on n'est pas, des policiers ni des juges, on veut juste savoir ce qui a été fait, puisque si ça n'a pas été bien fait, finalement... Si la molécule est adaptée, autant la reprendre correctement plutôt que de la mettre de côté et de passer à quelque chose de potentiellement plus important et peut-être avec plus d'effets secondaires.
Ou plus invasif.
Oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment la chose importante. Et ensuite, si les traitements locaux ne marchent pas, là, on peut proposer des traitements par voie générale. Donc, le plus souvent, la doxycycline, c'est des cures de 3 mois. Et après... On discute avec le patient du traitement.
Voilà, et on voit la progression.
La progression,
ou pas,
exactement. Et puis...
Et on repose les mêmes questions.
Exactement. Est-ce que ça a été fait ? Est-ce que ça a été bien fait ? Est-ce que ça a été bien toléré ? Parce que si le traitement est mal toléré,
Oui, il faut l'arrêter.
Il faut l'arrêter, ou peut-être l'adapter. Peut-être 1 jour sur 2, peut-être 1 jour sur 3, ou alors si c'est pas toléré, pas bien toléré du tout, peut-être passer à autre chose. Et ensuite, quand on change de traitement, notamment pour les traitements comme le roaccutane, c'est de discuter des avantages et des inconvénients. Mm. Voilà. Et est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on ne peut pas le faire ? Si c'est un patient mineur, de discuter avec les parents. Est-ce que les parents sont d'accord ? Est-ce que l'ado est d'accord aussi ? La contrainte que ça peut engendrer, c'est-à-dire qu'un patient qu'il faut revoir tous les mois, qui habite à 150 km, ça va être un peu plus problématique s'il est au lycée.
Mais est-ce que justement, il n'y a pas des... Parce que voilà, pour les personnes qui... on a bien compris, et on l'a dit tout à l'heure, hein, en Charente, en Lot-et-Garonne, ça va être compliqué, donc ils vont forcément arriver vers chez nous, on va dire. Ils sont les bienvenus, hein, ça, c'est pas le problème. Est-ce que du coup, il n'y a pas des téléconsultations pour éviter à ces personnes-là de faire justement 150 ou 200 kilomètres ?
Alors, il existe des téléconsultations. Moi, je
alors, c'est pas pareil. Hein. Oui, je suis assez d'accord.
Enfin, la moi, téléconsultation, je trouve que la qualité de la consultation est moindre, mais ça reste mon avis personnel. Ça rend d'énormes services et beaucoup de mes confrères la pratiquent. Sur des traitements où il faut revoir les patients tous les mois, le dermatologue, par exemple pour le Roaccutane, est obligatoire pour initier la prescription. Ouais. Et ce que je fais, c'est que souvent j'accompagne dans les 2-3 premiers mois jusqu'à obtenir un traitement dit de croisière, voir comment ça se passe. Et ensuite, je fais un courrier au médecin traitant pour lui donner un petit peu
la
marche à suivre et pour pouvoir... continuer le traitement et ensuite je revois le patient à la demande ou alors on se dit dans 3-4 mois on revoit ce qu'il en est. Voilà, pour plus de simplicité d'un point de vue pratique uniquement et géographique.
Il y a quand même des nouveautés en matière de traitement de l'acné.
Il y a une nouveauté, cette nouveauté c'est vraiment
ce laser.
Ouais. Alors, problème du laser et problème de la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge sur ce laser.
D'accord. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est le coût qui va être...
énorme du coup pour le patient.
Exactement. Le reste à charge, puisqu'il n'y a aucune prise en charge dessus. Donc ce n'est pas un traitement qu'on va proposer en première intention. Et c'est un traitement qu'on va discuter.
D'accord. Et alors pourquoi il n'est pas pris en charge en fait ?
Alors, parce que les nouveautés doivent passer dans les commissions de la sécurité sociale pour avoir un tarif... un service médical rendu et après il faut que ça soit le fabricant qui le demande et ça prend souvent
quelques années.
Des années, exactement. Alors peut-être qu'un jour, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que je ne suis pas dans les petits papiers des finances de la Sécu, mais je ne crois pas que ça soit...
Ouais, non, ça ne doit pas être leur priorité.
Ouais, exactement.
Okay. Alors vous-même, vous faites du laser. Donc à part traiter l'acné, qu'est-ce que ça traite, le laser?
Alors, le laser, il faut voir que c'est une machine qui va envoyer une lumière de haute intensité. Pour le laser qui est dite cohérente et qui ce laser va aller chercher une cible. Donc on va avoir des lasers dits pigmentaires qui vont aller chercher le pigment comme ce qu'on appelle les lasers déclenchés ou autrement appelés les lasers Q-switch qui vont par exemple cibler qu'on va utiliser pour le détatouage.
D'accord. Voilà.
Okay. Mais un laser pour le détatouage ne va pas traiter l'acné.
Ah oui, il y a plusieurs types de lasers.
Il y a plusieurs types de lasers, exactement. Le laser, quand on parle de laser, ça a un côté un petit peu mystique, magique, nouvelle technologie, on va pouvoir tout traiter avec. Souvent, on me demande d'ailleurs, pour revenir sur les grains de beauté, oh, ben tiens, je voudrais bien me faire enlever des grains de beauté au laser. Chose qu'on ne fait pas, puisque quand on enlève un grain de beauté, on veut l'analyser, avec le laser, on le détruirait. Mm. Et puis le rendu cicatriciel ne sera pas forcément meilleur. On a des lasers dits vasculaires pour les patients qui ont de la couprose, qui sont rouges au niveau du visage, du nez, des pommettes. Et ça, le laser va aller cibler plutôt le rouge. Et donc le rouge, c'est le sang qui circule dans les vaisseaux au niveau du visage. On a des lasers qui vont aller cibler plus l'eau. Des lasers qui vont aller traiter des cicatrices. On a vraiment plusieurs types de lasers, plusieurs longueurs d'onde et donc plusieurs possibilités thérapeutiques. On peut faire des traitements d'angiome, par exemple, d'angiome de naissance, de ce qu'on appelle aussi les taches de vin, avec le laser. On a des lasers qui vont être dits ablatifs, c'est-à-dire qu'ils vont aller enlever, ça va agir comme une ponceuse, qui sont extrêmement intéressants dans les cicatrices d'acné, pour revenir sur ça. Des lasers qui vont être plus doux. Et donc, vraiment, on ne peut pas dire qu'on a une indication par laser, mais on a une cible spécifique par laser. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, le laser, ça chauffe et ce n'est pas très agréable.
Oui, mais c'est à l'instant T.
Et exactement. Souvent, derrière, une fois qu'on a fini la séance...
On a généralement une petite crème à mettre.
On essaye, dans la mesure du possible, pour certaines indications, mettre une crème anesthésiante avant pour diminuer la sensibilité. Mais souvent, il y a une cible, et souvent, ce que j'explique à mes patients pour être assez simple, le laser, c'est un peu le feu, et la cible qu'on va venir traiter, c'est un peu la poudre. Et donc, on crée une sorte d'explosion au niveau de la peau, et la peau étant sensible et innervée, bah, ça crée cette sensibilité qui va être ressentie d'ailleurs chez chaque patient de manière différente et sur chaque partie du corps de manière différente également.
Alors, pour terminer un petit peu sur la dermatologie, alors le Botox ou acide hyaluronique, c'est quoi la différence entre les deux?
Alors, c'est deux molécules souvent, en fait, mes patients les opposent et disent « moi, je ne suis pas très Botox, moi, je ne suis pas très acide hyaluronique ». C'est deux molécules qui vont avoir une synergie. Le Botox, c'est une toxine, donc c'est un poison.
Ça fait peur, hein, du coup.
Ça fait peur.
C'est pas top, quoi.
Ouais. C'est vrai que ça peut faire peur, mais en fait, c'est un poison qu'on a isolé d'une bactérie qui s'appelle le Clostridium botulinum, qui est une bactérie qui se développait dans les conserves que font certains gens ou que faisaient beaucoup nos grands-parents, et des conserves mal stérilisées.
D'où le botulisme après.
Exactement.
Ok.
Voilà. Et donc, le Botox, c'est un agent qui va... Enfin, la toxine... Botox, c'est un nom commercial, mais la toxine botulique, c'est une toxine qui va paralyser, qui va relâcher la contraction musculaire. Avant d'être utilisée en esthétique, elle a été utilisée, et elle est toujours utilisée, dans des pathologies comme des torticolis fixés ou des contractions musculaires involontaires ou ce qu'on appelle les blépharospasmes, les gens qui clignent des yeux énormément, ou des strabismes, voilà, pour relâcher la contraction musculaire. Donc, Botox ou acide hyaluronique, ça va être une question d'indication. Le Botox, schématiquement, on va l'utiliser sur le haut du visage, quand on fronce, quand on est contrarié, quand on a le soleil, et à force de froncer, ça va créer des rides. Voilà. Et l'acide hyaluronique, donc là, c'est plutôt un gel qui va donner un volume. Donner un volume qu'on va pouvoir placer où on a envie de le placer, dans une ride, dans un sillon nasogénien, dans une pommette, dans des lèvres, au niveau du nez. Voilà, donc ça, c'est y en a un qui va remplir et l'autre qui va relâcher. Et en France, on utilise beaucoup l'expression « être botoxé » pour des grosses lèvres, des grosses pommettes. Et en fait, on ne peut pas donner du volume avec du botox.
Ouais, du coup, c'est faux, en fait.
Du coup, c'est faux. Mais bon, c'est une expression qui est passée
dans les mœurs.
Dans les mœurs, exactement.
Ok. Merci beaucoup. On va faire notre troisième et dernière pause musicale. Toujours en anglais, bien sûr. Désolé. Alors, Stressed Out de 21 Pilots.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space but now they're laughing at the face saying wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time.
Pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, avant la pause musicale, le docteur Vincent Kant nous a parlé de dermatologie. Si vous voulez réécouter l'émission, elle sera disponible en podcast directement sur le site de la radio, auderadio.fr, dès la fin de l'émission. Docteur Kant, merci d'être venu. Est-ce que vous pourriez nous donner le numéro de téléphone de votre cabinet pour qu'on puisse prendre un rendez-vous si on a besoin? Voilà, on sait qu'il y aura peut-être du délai, mais au moins...
Bien sûr. C'est le 05 24 73 34 46.
Merci beaucoup à vous d'être venu. Pour nos dernières informations, donc dimanche, salon du bien-être à Sauveterre de Guyenne, à la salle Simone Veil, de 10h à 18h, avec des conférences toutes les 30 minutes. La mienne sera à midi, se connaître pour mieux accompagner les neurosciences au service de l'écriture. Je rappelle que vous pouvez également donner votre sang. Le mieux, c'est d'appeler la maison du don du sang qui est au CHU Pellegrin. Il y a plein de dates sur jusqu'au 1er avril, en tous les cas, pour l'instant, et puis d'autres qui viendront après. La semaine prochaine, je recevrai Monia Ferré qui nous parlera du soin ayurvédique. Bon, pour moi, c'est un peu compliqué à le prononcer, mais on va y arriver. J'ai une semaine pour m'entraîner. Merci à Christelle d'avoir fait la technique aujourd'hui. Merci, docteur Kant, d'être venu nous parler de dermatologie. On a bien compris que vous êtes peu nombreux en France et que il faudra aussi qu'on soit patient parfois pour avoir des rendez-vous. Voilà, et merci vraiment beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
Avec plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.